France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est notre 9e chapitre, l'incroyable histoire franco-mexicaine des Barcelonnettes. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. L'épisode d'aujourd'hui, qui va nous mener peu à peu au fameux Barcelonetas, commence sur la place Garibaldi de Mexico, dans le centre historique de la ville. C'est là que se trouve le Tenampa, café-restaurant très populaire et refuge des orchestres de mariachis avec leurs guitares et leurs sombreros. Les premiers à s'y installer sont ceux que dirige Concho Andrade. En 1927, Andrade propose très élégamment à son rival, Marmolejo, de venir y jouer avec ses musiciens en alternance. C'est ainsi qu'est née cette tradition qui existe encore aujourd'hui. Pendant qu'un groupe de mariachis joue à l'intérieur du café-restaurant, un autre joue sur la place. Marmolejo a eu alors l'idée d'engager un trompettiste afin de donner plus de sonorité à l'orchestre en plein air. C'est son ensemble qui célèbre ici la ville d'où ils viennent, c'est-à-dire Guadalajara, dans l'état de Jalisco, avec la devise qui est le porte-drapeau de la région, Jalisco no te rajes, Jalisco, ne baisse pas les bras, tiens bon.
Al mariachi de mi tierra tapatía voy a darle mi cantar, arrullada por sus hombres. Se menciona con ambiente y soñar la música, sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas con un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucha sus cantares ganas de llorar me da.
No te rajes, qué caray.
El mariachi suena con alegre son. Oye, cómo alegra canta mi canción. El mariachi suena con alegre son. Oye, cómo alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja.
Ay, ay, ay.
Suena el guitarro.
Ay, ay, ay.
El violín se queja.
Ay, ay, ay.
Lo mismo que yo.
Como yo.
Como blancos alcatraces al cantar, se al beber. En San Juan de Dios mi barrio, monto entero y bebo en jarro la tequila es mi mujer. El sombrero hecho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' ganar, ya quien yo sé.
Ay, qué patín tan bonito, ay, los datos de Jalisco donde somos los de ley.
Ay, Jalisco, no te rajes, no te rajes, qué caray.
Les mariachis de Marmolejo enregistrés dans les années 30. L'arrivée de la trompette dans l'orchestre de mariachis aurait sans doute une autre origine. Pavel Granados, directeur de la Phonothèque nationale du Mexique, nous explique.
Don Miguel Martínez fue el primer trompetista del
Don Miguel Martínez a été le premier trompettiste de l'ensemble de Mariachis Vargas de Tecalitlán. Et il m'a raconté comment on a eu l'idée d'inclure une trompette au Mariachis. Les Mariachis Vargas jouaient déjà sur la place Garibaldi quand on leur a demandé de faire un essai à la radio XEW. Don Amado Guzmán, qui était le directeur artistique de la radio, les a installés dans le studio et lui, il est resté de l'autre côté de la vitre. Ils ont joué quelques morceaux. Amado Guzmán est entré et il leur a dit « Vous jouez bien et ça nous a plu ». Mais il se trouve qu'il y a une semaine, le fondateur de cette radio, Azcárraga, était invité à un déjeuner dans l'état de Jalisco. Et durant le repas, sont arrivés des mariachis qui jouaient avec un trompettiste. Et il a beaucoup aimé comme ça sonnait. Pourquoi ne faites-vous pas un essai avec une trompette et on voit ce que ça donne ?
Y a ver cómo suena.
El Mariachi Vargas de Tecalitlán dans La Negra. La Negra, ça veut dire tout simplement la bien-aimée. Negrita, tu peux leur dire oui à tous, mais jamais quand. Ça me laisse un espoir. On dit que La Negra, c'est carrément devenu un hymne national mexicain. En ces années 1927-1928, un jeune homme de 30 ans, orphelin, qui vit pauvrement, joue du piano et chante dans les maisons closes de Mexico. Il s'appelle Agustín Lara. Il dira plus tard, alors qu'il est devenu une idole dans tout le Mexique, que c'est parmi les prostituées qu'il a connu les femmes les plus nobles et les plus courageuses. Il a appris à les aimer et il les chantera toute sa vie. Un jour, une femme follement amoureuse de lui et extrêmement jalouse a sorti son poignard et lui a tailladé la joue. Il en a gardé une longue cicatrice qui l'a profondément déprimé tout au long de sa vie. Quand au milieu de l'année 1928, le président de la République décide de fermer tous les centres nocturnes, Agustín doit chercher fortune ailleurs. En passant près du restaurant Salambo, il voit une pancarte indiquant « Recherche pianiste » et il est immédiatement engagé. Les clients s'attachent à lui. Ils aiment beaucoup la manière de jouer de ce jeune homme mélancolique, extrêmement mince. Il joue de 13h à 16h et de 21h à minuit. C'est dans ce restaurant qu'il chante pour la première fois en 1928 son célèbre « Impossible ». « Il est impossible que tu m'aimes, toi qui fais payer les baisers que tu donnes. »
Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias me perjuran, incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios.
La voix unique d'Agustín Lara, véritable gloire nationale au Mexique. En 1928, le compositeur Manuel Ponce est encore à Paris et il se morfond. Sa femme est absente, sa gazette musicale n'est plus éditée et sa situation économique n'est pas brillante. C'est alors que son ami, le guitariste Andrés Segovia, le met en rapport avec les héritiers de Isaac Albéniz. Il cherche un compositeur pour achever son opéra Merlin, qui devait être le premier d'une trilogie inspirée du cycle arthurien. Manuel Ponce se met aussitôt au travail. Il mettra 10 ans à achever cette partition. Merlin nécessite un orchestre aux dimensions quasi wagnériennes et pourtant, de nombreux moments sont d'un impressionnisme diaphane, parfois inspiré par l'Espagne, notamment quand au début de l'acte 3, la fée Viviane danse pour Merlin.
Thank you.
La danse de la fée Viviane à l'acte 3 de l'opéra Merlin d'Isaac Albéniz. Anna Maria Martinez, soprano, l'orchestre symphonique de Madrid dirigé par José de Eusebio. Manuel Ponce décide d'aller passer l'été 1929 à Mexico et dans sa ville natale à la campagne. Il retrouve enfin son épouse, Clema, devenue une cantatrice renommée. Il joue dans un concert consacré à ses œuvres de musique de chambre. Mais il n'oublie pas Paris. Quant au Mexique, il propose à Carlos Chavez de mettre sur pied un concert avec l'appui de la communauté française pour récolter des fonds et participer ainsi avec d'autres pays à l'édification là-bas d'un monument à Claude Debussy. Le premier concert a lieu en août 1929, lors duquel Carlos Chavez dirige des œuvres de Duca, de Mozart et un extrait de Chapultepec de Ponce. En octobre, ce dernier est invité au Festival Ibero-Américain de Barcelone, où il revoit son grand ami Pablo Casals et rencontre un grand nombre de compositeurs latino-américains. Puis il repart à Paris à la fin du mois afin de reprendre les cours à l'école normale. Il compose alors pour le guitariste Andrés Segovia ses variations et fugues sur la folie d'Espagne.
Thank you.
Les premières variations sur la folie d'Espagne de Manuel Ponce par Andrés Segovia. Et voilà que les Barcelonnettes entrent en scène. En effet, parmi les généreux donateurs français à Mexico pour le monument à Debussy, il y avait les Barcelonnettes, que Paul Morand avait d'ailleurs évoqué dans ses mémoires de voyage. L'histoire franco-mexicaine des Barcelonetas, comme on les appelle en espagnol, est passionnante et trop peu connue. Joseph-Henri Tron, devenu au Mexique José Enrique Tron, a été un économiste mexicain exceptionnel. Il est descendant de Barcelonetas et habite aujourd'hui Cuernavaca. Joint au téléphone, il nous raconte cette histoire qui remonterait au XIIIe siècle. La Méditerranée était infestée de pirates. Surtout dans cette section entre le sud de la France, l'ouest de l'Italie et la côte d'Espagne. C'est pourquoi le comte de Provence s'est allié au duc de Barcelone et au doge de Venise pour ouvrir une route commerciale à travers les Alpes, dans la vallée de l'Ubaye, qui est sans doute la seule à avoir une orientation est-ouest. De plus, elle est fermée peu de temps durant l'hiver, ce qui permet de voyager plus constamment d'un pays à l'autre. On a alors fondé un village consacré au commerce qu'on a appelé Barcelonnette. La nouvelle Barcelone, c'était en 1231. Une pavane vénitienne du XVIe siècle interprétée par Jordi Savall et son ensemble Hespérion 21. Aux nombreux commerçants qui se sont installés à Barcelonnette, se sont ajoutés au XVe et au XVIe siècle de nombreux juifs convertis venus d'Espagne qu'on appelait los marranos, les maranes. Les familles ont utilisé alors des noms français comme Michel, Jean, etc. Au Mexique, Glory Jean est une descendante de ces Barcelonetas Marranos.
L'histoire de Barcelonnette remonte à très loin, où le temps est Isabella et Fernando le Catholique. En Espagne, ils ont chassé tous les Juifs qui habitaient à Barcelone. Alors, ils ont fui à la France, 80 km de Nice, sur les Alpes. Ils ont fait le village de la Barcelonnette, parce que tous venaient de Barcelone. Ils avaient leur métier, ils tissaient des tissus. C'est une histoire merveilleuse, non? Je connais beaucoup de Français qui me disent « Oh non, non, l'origine juive, non !» Pourquoi? C'est pour ça que mes noms sont Jean-Manuel. C'est complètement séfaradi.
Jordi Savall et la Capella Reale de Catalogne, dans ce pan de l'affliction, le pain de l'affliction, un chant traditionnel séfarade. À Barcelonnette, les Espagnols se sont alors établis dans la vallée de l'Ubaï en Haute-Provence. Quant au XIVe siècle, le commerce maritime a repris. Barcelonnette a connu un déclin inexorable et les Barcelonetas ont dû survivre. Beaucoup sont devenus bergers et d'autres colporteurs. L'hiver servait à préparer les textiles et la confection. Au printemps, les habitants partaient sur les routes pour vendre ou échanger leurs marchandises jusqu'à Lyon et Turin. Et cela a duré tout au long du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe siècle.
Raimondas vel maride, dama gentila se kiel vel spuse, le pan cornanca le maride, o che la guerra i tuca giande.
Faitas tecas, o fratelin, perché guerneis al so bel fiulin. Faitas tecas, o fratelin, perché guerneis al so bel fiulin.
Principium vada l'andurador, per fesi fe dui anelun.
Dui anelun e due anelin, companiat cuid la marion sin.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le bal provençal et un chant du Piémont, extrait de la musique du film Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, d'après le roman de Giono. Dès 1830, beaucoup d'habitants de Barcelonnette et notamment beaucoup de descendants d'Espagnols choisissent d'émigrer vers les Amériques, notamment au Mexique, où ils vont participer au développement économique à l'époque du premier gouvernement de Porfirio Díaz en 1876. José Luis Strong. Les premiers Barcelonnettes sont partis à la fin du 19e siècle. Le bateau est d'abord arrivé sur la côte du Mexique à Veracruz, avant de remonter vers la Nouvelle-Orléans. Ils ont alors débarqué, descendons ici, on verra bien ce qu'on va trouver. Et ils se sont consacrés d'abord au commerce de textiles. La première industrie de textiles a été fondée au Mexique par les Barcelonnettes. Puis à un moment, on s'est rendu compte que pour les textiles de base, il était plus avantageux de les fabriquer au Mexique. Et on a construit une des plus grandes usines textiles des Amériques, comparable à celle qui existait en Europe. Du coup, il a fallu pouvoir effectuer des paiements ou des transferts d'argent avec les fournisseurs européens. C'est ainsi que sont nées les premières banques. La Banque du Mexique a été administrée au début par des Français. Et le ministre des Finances du président Porfirio Díaz en ce moment de grande croissance industrielle, était français. Gratitude de Maria Garfias, la première valse composée au Mexique par une femme au milieu du 19e siècle, par le duo de harpe de Mercedes Gomez et de Janet Paulus. Les Barcelonnettes se sont donc enrichies. Vers 1930, beaucoup sont revenus au village de leurs ancêtres et ont construit des maisons superbes. Aujourd'hui, les rues et les places portent des noms mexicains. Et chaque année en été ont lieu de grandes fêtes mexicaines. Glory Jean nous raconte le retour de son grand-père à Barcelonnette.
C'est mon grand-père, Jean. En 1937, il a commencé à faire cette merveilleuse maison. Il a choisi le meilleur architecte Art Nouveau. C'est la Villa Bleue. Ils ont commencé en 1931. Après, on l'a fini en 1937. C'est ça l'avenue Porfirio Díaz. C'était une immense propriété et surtout il y a une histoire merveilleuse. Mon arrière-grand-père Manuel, quand il est arrivé au Mexique, il a connu une descendante de Cuitláhuac, que c'était un empereur aztèque. Bon, ils se sont réunis, ils ont eu 4 enfants, c'était mon grand-père, non? Ils se sont mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que mon arrière-grand-père a dit non, ou me marier avec la Mexicaine, ou aller faire la guerre, je me marie. Mais mon grand-père est né de ce mariage-là. Alors moi, je suis la 17e génération de Cuitláhuac. Alors j'ai du sang français et aztèque.
Thank you.
un danzón mexicain interprété par Acerina et sa danzonera, comme autrefois au Salon de Mexico. Glorijean, qui avait intégré dans la capitale deux compagnies de ballet contemporain, allait souvent danser le danzón au Salon de Mexico. Aujourd'hui, au Mexique, on a souvent oublié que ce sont des Barcelonnettes qui ont fondé les deux plus grands magasins de la capitale, de l'envergure des galeries Lafayette de Paris, par exemple, c'est-à-dire El Palacio de Hierro, dont la structure est en fer, et le très chic Liverpool. Quelle surprise alors, pour des Mexicains en vacances dans les Alpes, de découvrir un jour Barcelonnette. C'est ce qui est arrivé à l'architecte Fernando González Gortázar.
Nosotros llegamos por el lado francés.
Nous sommes arrivés du côté français. Et soudain, un mur énorme avec une pancarte qui disait
«
Bienvenue à Barcelonnette, la ville mexicaine de France ». Après, on entre dans le village, parce que c'est un village, par l'avenue Benito Juárez. Toutes les rues ont des noms de héros mexicains ou de choses en rapport avec le Mexique.
El barrio rico de las grandes casas,
le quartier riche où se trouvent les grandes maisons s'appelle les maisons mexicaines.
El banco, el único que
la banque, en tout cas la seule que nous ayons connue, avait une vitrine qui annonçait l'empire des Barcelonnettes au Mexique. C'était une exposition de billets de banque. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à cette date, c'est-à-dire 1986, 87 ou 88, tous les billets émis par la Banque nationale du Mexique portaient une signature d'un Barceloneta. Et dans le supermarché, il y avait même une section mexicaine. C'était vraiment quelque chose de surréaliste. La troisième des novelettes de Francis Poulenc, interprétée par le pianiste mexicain Alberto Cruz Prieto, qui nous ramène de Barcelonnette à Mexico. C'est une œuvre que Carlos Chavez, qui était aussi pianiste, a souvent mise à son répertoire quand il est rentré de France et des États-Unis au Mexique. Poulenc a toujours été très aimé dans ce pays, comme en Amérique latine en général. Cette même année 1928, Carlos Chavez, directeur du Conservatoire de Mexico, se bat pour faire nationaliser l'orchestre symphonique qu'il vient de fonder. Dans sa programmation, il choisit enfin la création mexicaine d'une œuvre nord-américaine. Aux côtés de Davnis et Chloé de Ravel, du prélude et mort d'Isolde de Wagner et de courtes œuvres mexicaines, il dirige le 4 novembre un ballet tout à fait dans le style d'Aaron Copland, ou plutôt de Gershwin. Un ballet créé au Metropolitan Opera de New York 2 ans auparavant, avec pour la première fois un chœur de chanteurs noirs sur scène. C'est le fameux Skyscrapers, les gratte-ciels de John Alden Carpenter. Et à sa grande surprise, c'est un tollé dans la salle. Faut-il le mettre au compte du nationalisme mexicain exacerbé ces années-là, ou au sentiment anti-américain toujours très fort ? Pourtant, quelle belle balade dans New York, que ce Skyscrapers ou Gershwin n'est pas loin. Le dernier mouvement de Skyscrapers de John Alden Carpenter, l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Kenneth Klein. Carlos Chavez, dans sa ténacité, va gagner cependant assez vite son pari, faire découvrir sans cesse des œuvres nouvelles à son public, qui est d'ailleurs de plus en plus nombreux. Aux États-Unis, les musiciens mexicains de leur côté sont de plus en plus présents, comme le jeune Guti Cárdenas. Cárdenas a été découvert en 1927 par le compositeur populaire Ignacio Fernández Esperón, dit Tata Nacho, quand il est parti à Mérida pour assister au carnaval. C'est à cette occasion qu'il a entendu Guti, un guitariste et un chanteur hors pair de 22 ans. Il le fait venir aussitôt à Mexico. Et son succès est tel qu'il part tenter sa chance aux États-Unis l'année suivante. À New York, son répertoire de chansons mexicaines et latino-américaines attire un public si enthousiaste que les firmes de disques l'enregistrent aussitôt. Il s'établit alors à Manhattan, où il réside 4 ans et où seront produits tous ses disques. Il chante ici une ancienne mélodie de la région de Veracruz, El pájaro carpintero. Le charpentier est comme le pivert, un véritable don Juan qui vit toujours avec passion et séduit toutes les femmes. Moralité, épousez une femme laide, personne ne viendra vous la courtiser.
El pájaro carpintero siempre vive apasionado, el pájaro carpintero siempre vive apasionado, y le replicó el jilguero, hombre vive con cuidado, que siendo yo el carbonero, una vieja me ha tiznado. El pájaro carpintero de copete colorado, el pájaro carpintero de copete colorado, siempre está pica que pica hasta abrir el agujero. Así hago yo, vida mía, cuando de veras las quiero. Yo conocí un carpintero que no era de los muy malos, yo conocí un carpintero que no era de los muy malos, que formaba tinajeros antes que naciera el palo, antes que naciera el palo, ese sí era carpintero. Carpintero fue misa y no hallando que rezar, un carpintero fue misa y no hallando que rezar, a los santos les pedía madera para cerrar, mas ellos le contestaron que telas del sacristán. Se retira el carpintero con su piquito abollado, se retira el carpintero con su piquito abollado, de tanto que ha batallado para abrir el agujero. Todo eso le sucedió por andar de majadero.
L'année où Guti Cárdenas arrive à New York, on est en 1928, le compositeur américain John Philip Sosa, l'auteur de la marche patriotique Stars and Stripes de la bannière étoilée des États-Unis, découvre le Nouveau-Mexique, ancien territoire mexicain. Il a 74 ans et il entre en contact avec sa nombreuse population hispanique. Dans sa New Mexico March, il inclut alors une danse indienne et un paso doble tel qu'il en avait entendu quand les fanfares mexicaines venues de la Nouvelle-Orléans avait parcouru les États-Unis au début du XXe siècle. Cette marche du Nouveau-Mexique a été l'une de ses dernières œuvres.
«
C'est avec cette marche du Nouveau-Mexique de John Philip Sosa qu'on se quitte aujourd'hui et qu'on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, prise de son Olivier Dupré. Une émission disponible en podcast, évidemment.
À réécouter sur francemusique.fr.